Bonjour et bienvenue à Partir en affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis réalisateur de vidéos d'accueil, c'est-à-dire qu'ensemble on fait des vidéos qui visent à accueillir les visiteurs de leur site web pour leur donner le goût de faire affaire avec vous. Aujourd'hui sur le show, on parle d'un sujet qui m'est tellement précieux. À chaque fois qu'on aborde un sujet qui est lié à LinkedIn, moi, c'est comme une double dose de shooter de bonheur. Et en plus, là, on va jaser comment créer du bon contenu. Pour faire ça, je vais recevoir une rock star. Je reçois littéralement le Elvis Presley du LinkedIn. Pourquoi? Parce que chacune de ses tunes / publications sont des hits ou presque. Et que comme Elvis, cet entrepreneur fougueux a fait un comeback absolument sensationnel qui a bouleversé la planète francophone. Et j'ai nommé David Gaudreau. Salut David, comment tu vas?
Hello, ça va bien. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Inattendu définitivement. J'aime Elvis. J'aurais pas osé moi-même m'y comparer, mais bon.
Trouves-tu que la barre est haute?
La barre est effectivement haute, mais bon, je me mettrai pas de pression.
Dis-toi qu'il y a peu de chances que tu termines comme Elvis. Son comeback a été absolument sensationnel, mais la descente après a été un peu moins phénoménale.
Oui, effectivement. Donc, je vais être sur mes gardes là, pour m'assurer de toujours monter et de ne pas redescendre aussi vite que lui, disons.
Voilà. Écoute, David, par où commencer? Mais par où commencer? On va commencer par le commencement, c'est-à-dire, parce que là, j'ai parlé de comeback, je ne sais pas tout le monde nécessairement qui est au courant que tu as fait toi-même un comeback sur LinkedIn, puis c'est peut-être pas tout le monde de toute façon qui te connaît. On va partir de cette présomption-là que c'est pas tout le monde qui te connaît, fait qu'on va, j'aimerais ça que brièvement, tu nous parles un peu de t'es qui toi, David Gaudreau, puis qu'est-ce que ça veut dire pour toi dans ta vie LinkedIn?
Oui, LinkedIn, ça veut dire beaucoup. En fait, moi, je suis consultant en positionnement spécialisé sur LinkedIn. Donc, tu parles d'un comeback que j'ai fait. En fait, c'est que je me suis lancé officiellement après une dizaine d'années à travailler en B2B, en vente et marketing B2B dans la petite et la grande entreprise. Je me suis lancé en 2019 à mon compte. Et peu importe l'expérience qu'on a en affaires, on le sait, au départ, bien, on est en phase exploratoire. Donc, je cherchais la spécialisation que j'allais prendre ou le focus que j'allais prendre par rapport à mon activité. Donc, j'ai été dans une phase exploratoire. Ça s'est clarifié au fur et à mesure que j'avançais. Mais vers la fin 2020, j'ai ressenti ce besoin-là à un moment où j'avais pris la décision d'être consultant en positionnement. Mais j'ai pris cette décision-là de moi-même prendre du temps pour me repositionner parce que j'ai réalisé que j'étais cordonnier mal chaussé. Et donc, j'ai été plusieurs mois où je me suis retiré, où j'ai revu mon positionnement. Puis, c'est en mai 2021, dans le fond, que j'ai fait ce que tu appelles mon comeback, là, en fait, où là, j'ai recommencé à publier, à recréer du contenu et à refaire ma place hein, parce qu'on est vite oublié, veut pas. Donc, voilà, je suis encore dans ce processus-là, mais disons que ça va bien, je commence à gagner de plus en plus en traction.
Puis assez rapidement, parle-nous un peu des stratégies que tu as mises en place depuis ton retour.
Les stratégies, en fait, moi, j'aime les stratégies où j'ai des contenus, on va parler de création de contenu aujourd'hui, là, mais j'ai des contenus grand public que j'appelle des contenus de haute funnel qui vont aller chercher, générer de la visibilité, ensuite je vais décliner. Donc, je vais décliner en des contenus où je vais faire, par exemple, des masterclass où ça va me permettre d'être en contact avec les gens. Puis ensuite, je vais aller encore plus en profondeur dans la démonstration de l'expertise avec des guides approfondis. Et donc, c'est vraiment une stratégie, je pourrais dire top to bottom, là. Et donc, j'adresse un sujet particulier et je l'exploite de haut en bas, donc de manière très grande public en surface pour vraiment attirer l'attention, aller chercher de la visibilité. Puis ensuite, je le décline vraiment pour connecter avec les gens, pour faire la démonstration de mon expertise et évidemment, bien, éventuellement, de transformer toutes ces interactions-là en vente ou en interaction, en opportunité potentielle. Donc, c'est vraiment une stratégie, moi, que j'aime utiliser, qui m'est propre, que j'ai en fait pas vu à d'autres endroits. Là. Moi, c'est moi qui l'ai développé. Puis c'est vraiment une approche qui me sert bien, je te dirais, parce que je souhaite réussir à développer l'habitude de vraiment être en mesure de créer du contenu sur une base plus régulière, mais je ne suis pas très assidu. Et donc, j'ai plutôt l'habitude de créer du contenu peut-être une fois par semaine, des fois moins. Et donc, cette approche-là me permet justement d'aller chercher un boom de visibilité, puis ensuite de faire mes petites choses, de travailler mes contenus, préparer mes masterclass, et somme toute, de tirer mon épingle du jeu là, à ma manière, dans le fond.
Ben justement, tu as abordé le sujet sur lequel je voulais aller. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, tu fais aussi des masterclass. Là, tu en as fait combien jusqu'à maintenant?
J'ai fait 5 Connect and Learn. Donc, le Connect and Learn, c'est plus que des masterclass. C'est vraiment des événements réseautage suivis d'une masterclass. Entrecoupés d'une masterclass, que je devrais dire. Donc, on fait un breakout room. Ensuite, on fait un petit bout de masterclass de 15-20 minutes. On refait une breakout room. Ça nous donne l'occasion de jaser, de connecter avec les entrepreneurs. Et puis, on termine avec la deuxième partie de la masterclass, puis un Q&A à la fin. D'ailleurs, peut-être qu'on peut en profiter pour faire l'annonce. On s'en est pas parlé. Depuis le début, c'est moi qui ai fait les masterclass. Mais pour la prochaine, en fait, Mathieu m'a fait l'honneur d'accepter de faire la masterclass. Donc, l'événement sera, là, je ne veux pas me tromper, c'est le 2 novembre, je crois, c'est bien ça. Oui, c'est ça, exactement, le 2 novembre. La date n'est pas encore annoncée, je ne l'ai pas encore envoyée à ma liste courriel, donc c'est en grande première, en grande primeur. Donc, c'est Mathieu qui va faire la masterclass au prochain événement Connect and Learn. Et ça risque d'être fort intéressant parce que c'est un sujet vraiment passionnant. Donc, voilà, on peut en profiter pour faire cette annonce.
Sujet qui est justement de parler du marketing vidéo, comment utiliser la vidéo en ligne et en particulier sur LinkedIn d'ailleurs pour propulser ses affaires. Donc, le 2 novembre, mais justement, les Connect and Learn, pour avoir assisté moi-même à quelques-uns d'entre eux, ils sont excessivement riches en contenu, mais ils sont aussi complètement gratuits. Puis, attirent énormément de monde. À date, tu as quand même un taux de réponse qui est très fort. Puis, ils te permettent de créer du contenu que tu vas utiliser par la suite sur LinkedIn. Un truc que je vois beaucoup qui revient chez toi, c'est que ton contenu, il répertorie toujours beaucoup de monde. Les gens, par exemple, qui ont participé au Connect and Learn ou plus récemment, le guide des 100 meilleurs créateurs de contenu plus les 50 coups de cœur, donc 150 personnes. Fait que ça fait, dans les deux cas, ça fait toujours beaucoup de monde qui ont le potentiel de partager ton contenu. Tu n'es pas juste tout seul dans un coin à faire du contenu puis espérer qu'il pogne. Tu fais du contenu qui invite beaucoup les gens à embarquer dans un cycle de partage, de donner eux-mêmes leur feedback et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose d'intuitif ou c'est quelque chose de réfléchi pour toi, David?
Ah, c'est tout à fait réfléchi. C'est pas intuitif. Au contraire, moi, je suis très introverti. Comme je disais, je peux travailler dans ma bulle, moi, pendant des mois, puis j'ai aucun problème avec ça. Je dois, au contraire, de manière volontaire, adopter cette approche-là. Puis c'est une ligne éditoriale que j'ai adoptée qui, dans le fond, consiste, pas nécessairement la bonne façon de l'exprimer, mais vraiment qui consiste à mettre les autres de l'avant. Vraiment avoir être très inclusif dans mon approche. Donc, par rapport à avoir une approche très généreuse, par rapport au Connect and Learn, tu sais, il y a la part de valeur à travers la masterclass, mais il y a aussi énormément de valeur du fait de rassembler des entrepreneurs vraiment extraordinaires ensemble, leur donner l'occasion de jaser ensemble, de s'inspirer, de se motiver. Et donc, non, c'est vraiment fabuleux. Il a fallu que non seulement que je le fasse de manière volontaire, mais que je me pousse à le faire et je n'en retire que du positif finalement. C'est quand on dit, c'est important d'être généreux sur LinkedIn sans rien attendre en retour. Ben, j'adopte cette approche-là, mais en réalité, ça me revient, puis ça me revient au centuple, que ce soit pour les Connect and Learn, pour le classement récent aussi. J'ai eu une vague d'amour, de reconnaissance, c'est presque...
Oui,
c'est intense, là. Tu sais, ça a été vraiment intense récemment.
Et bon, oui, en particulier depuis la publication de ton contenu que je vais, je pourrais peut-être l'afficher à l'écran, mais c'est sûr que je veux rapidement aller dans le vif du sujet, parce que là, on fait une longue intro, mais je vais quand même l'afficher à l'écran pour ceux qui ne sont pas au courant. Tu as fait donc un top 100 des meilleurs créateurs de contenu LinkedIn sur lequel on peut accéder, entre autres, sur ton site web pour pouvoir le consulter. 100 meilleurs créateurs de contenu plus 50 coups de cœur de la rédaction. Écoute, David, j'aimerais ça qu'on aborde de plein fouet le sujet. C'est quoi, premièrement, pour toi, du bon contenu sur LinkedIn?
Ouais. En fait, du bon contenu, dans tout contenu, là, il y a la matière première, il y a le contenu, puis il y a l'enrobage. Okay? Donc, un bon contenu, généralement, va avoir une bonne matière première, puis va être vraiment très bien enrobé. Quand on parle de contenu, ben, c'est un contenu qui va avoir une couleur, une personnalité. Donc, souvent, les meilleurs créateurs de contenu vont réussir à le développer sur une longue période, mais à force de créer du contenu, ils développent leur personnalité, leur style, leur couleur, ce qui fait qu'on peut voir leur contenu, puis même si leur visage puis leur nom n'étaient pas à côté, on peut presque le reconnaître. T'sais. Donc, c'est vraiment une signature qui fait que ça va être des contenus qui vont se démarquer, qui vont être propres à eux. Au niveau de la matière première aussi, c'est qu'on va vouloir apporter de la valeur. Et souvent, ça, c'est pas clair. T'sais. C'est quoi ça, de la valeur? Bien, ça peut passer de l'inspiration à la motivation, à l'apport d'enseignement, jusqu'à des contenus qui vont faire évoluer les perspectives. Tu sais, moi, je parle souvent en accompagnement avec des clients. Tu sais, je recommande souvent de créer des contenus qui vont être mind-shifting. C'est-à-dire que les gens vont lire le contenu, puis ils vont se dire, ah, waouh, je ne l'avais pas vu comme ça. Donc, ils ont déjà une perspective, puis là, on fait vraiment évoluer les perspectives, on leur fait voir les choses différemment. Donc, ça, pour moi, la partie contenu, matière première, je dirais que c'est vraiment important de l'avoir. En fait, c'est essentiel. J'ai jasé récemment avec Mathieu Laferrière qui avait fait une publication qui disait que et on ne pouvait plus d'avoir que de l'émotion sur LinkedIn avec du bon storytelling, mais très peu de contenu, très peu de matière première. Donc, c'est bien de l'enrober. C'est essentiel même de bien l'enrober. Mais le contenu, super important, c'est l'élément fondamental. L'élément de soutien étant l'enrobage, le contenant. Puis ça, c'est vraiment très important parce qu'on peut faire le meilleur contenu du monde, un contenu d'impact. Si au final, il n'y a pas de visibilité parce qu'on l'a mal enrobé, parce qu'on n'a pas, on l'a mal rédigé, on l'a mal présenté, bien, il n'y en aura pas d'impact parce qu'il ne sera pas vu, il ne sera pas entendu, il n'y aura pas de visibilité, il ne va pas créer d'engagement, etc. Donc, un bon contenu va avoir le contenu, mais aussi un bon enrobage. On va en parler, mais ça peut passer à travers le storytelling, à une rédaction qui va être très bienveillante ou polarisante aussi. Pour les bienfaits du live d'aujourd'hui, hier, j'ai pris soin de faire une publication polarisante, justement parce que j'en fais très rarement, je suis beaucoup dans la bienveillance, mais je voulais quand même, si le besoin se présente, créer une publication polarisante, parce que c'est une façon d'aller chercher de la visibilité, ça génère beaucoup d'engagement, et donc c'est une façon d'enrober un bon contenu pour vraiment le faire exploser en termes de visibilité.
Et là, tu parles de contenant, puis j'entends beaucoup le côté rédaction, mais évidemment, ça peut aussi être de la vidéo, ça peut être des visuels, ça peut être beaucoup de choses, le contenant. Je pense à un Isaël Morin qui fait qui justement lui est en train aussi de faire un léger comeback sur LinkedIn, puis qui ses vidéos fonctionnent vraiment bien, puis a été dans la simplicité depuis qu'il est revenu. OK, fait que contenu, contenant. Maintenant, quels sont mettons LinkedIn en particulier, parce que tous les réseaux sociaux n'ont pas vraisemblablement, sensiblement les mêmes codes et ce n'est pas le même contenu qui va fonctionner. Puis en particulier sur LinkedIn, on est peut-être, je ne sais pas si on est plus sévère, mais il y a certains types de contenus qui passent moins bien en tout cas. C'est peut-être moins la place pour parler politique, c'est peut-être moins la place pour parler de débats autres que business. Qu'est-ce que tu en penses? Puis quelles sont les grandes lignes à suivre quand on crée du contenu sur LinkedIn?
OK. Par rapport à ça, mon opinion, j'ai une opinion un peu partagée. Je dirais, je suis vraiment sur l'impression qu'on peut parler de tout sur LinkedIn, mais qu'il faut trouver le bon angle pour le faire. OK? Et là, quand je dis tout, bon, il y a certaines limites. Mais par contre, il faut toujours être conscient que c'est notre personal branding qu'on met sur la table, c'est notre notoriété, c'est notre crédibilité. Et donc, si on fait le choix de parler de religion, ben c'est un choix volontaire avec les conséquences que ça peut apporter. Si on fait le choix de parler de politique, également. Par contre, je dis ça politique avec toute réserve, même la religion, je crois que dans les termes et conditions, du moins pour les lives, il y a des sujets à proscrire là, donc à ce niveau-là. Mais cela dit, à mon sens, c'est possible. Tu sais, dans mon classement là, des meilleurs créateurs, je me suis assuré d'inclure des gens qui parlent de différents sujets, de différentes façons, dans différents formats. J'ai même une cardiologue qui fait de la prévention des maladies cardiovasculaires. J'ai des environnementalistes. Et donc, c'est possible de parler de différents sujets. Encore faut-il trouver le bon angle pour l'approcher. Parce qu'au final, c'est le test de l'assistance. Hein. Si personne n'interagit, il n'y aura pas de visibilité. Puis le contenu, ben, il va pas être vu. T'sais.
Mon esprit allait dans le même sens. Ultimement, il faut que tu connaisses bien ton auditoire. Parce que si ton auditoire, c'est des gens qui travaillent en politique, ben, ça fait bien du sens. Tu as tout à fait raison de parler de politique. Quelques grandes lignes, quelques grands conseils peut-être à suivre pour parce que la plupart des gens ont une, surtout ceux qui arrivent sur LinkedIn ou qui sont peut-être là, il y a beaucoup de gens qui sont là puis qui interagissent avec le contenu d'autrui, qui zioutent, qui lisent beaucoup de choses puis qui n'ont pas encore commencé ou très peu à faire leur propre contenu parce que c'est des fois pas angoissant mais intimidant. Intimidant dans le sens où ah, ben, je ne suis pas le premier qui commence à parler. On va parler de mon sujet, par exemple, vidéo marketing. Ah, ben là, j'arrive déjà 2, 3, 4 personnes qui font de l'excellent contenu en vidéo marketing. Par où je commence? Est-ce que je vais y trouver ma place? Comment les premiers pas pour développer une stratégie de contenu sur LinkedIn, d'après toi, c'est quoi?
D'abord, le premier pas, c'est d'accepter de ne pas être parfait. Puis c'est le problème de plusieurs, c'est qu'ils vont attendre d'être parfait avant de commencer, mais ils ne deviendront jamais parfaits sans créer du contenu. C'est comme d'essayer de devenir un virtuose du piano, mais sans toucher le piano. OK? Donc, pour apprendre à jouer du piano, il faut commencer à jouer. Pour apprendre à créer du contenu, c'est un art, il faut commencer à créer. Cela dit, il ne faut pas non plus se mettre trop de pression. Et je vous explique pourquoi. Vous allez beaucoup angoisser au début de peur d'être jugé, de peur d'être vu par vos relations d'affaires, d'être jugé par ces relations-là. Mais ce que vous allez vite réaliser lorsque vous allez commencer à publier, c'est que la difficulté, c'est d'en avoir de la visibilité. Quand on crée du contenu au début, là, si on se trompe, ben le pire qui peut arriver, personne ne va le voir. C'est ça la réalité. Il y a peut-être une dizaine de personnes dans notre réseau qui vont le voir. Puis c'est bien correct. Mais chacun des contenus, c'est un apprentissage. Et chacune des rétroactions que vous recevez, des commentaires de votre réseau, ben ça va être des façons pour vous de vous nourrir puis de vous améliorer. Et donc, c'est vraiment... Moi, je me souviens, la première vidéo que j'ai faite, là, je l'ai eu 3 semaines sur mon ordi à angoisser, puis je n'osais pas la publier. Puis quand je l'ai publiée, j'ai eu aucune visibilité. C'est ça, la réalité. Et là, tu sais, j'ai fait un pas de recul, puis je me suis dit, bon, OK, je viens de perdre 3 semaines à angoisser pour un contenu qui, au final, a servi d'une bonne pratique, a été un apprentissage. Donc, c'est vraiment important de le comprendre.
Il faut garder en tête aussi que c'est vrai pour n'importe quel autre réseau social. À partir du moment où on commence à créer du contenu, au début, on parle dans le vide, puis c'est un peu normal. Donc, c'est une bonne pratique pour justement développer, commencer à faire du contenu, puis voir qu'est-ce qui fit avec moi, est-ce que, par exemple, est-ce que j'adopte le vouvoiement ou le tutoiement, est-ce que qu'avec quoi je suis à l'aise, quel genre de contenu j'aime produire. J'aimerais ça t'amener dans le storytelling, parce que on parle de façon de structurer son contenu. Puis, je parlais hier, j'ai fait un post hier sur le conflit, à quel point une histoire sans conflit, sans obstacle, sans challenge, c'est une histoire qui est un peu banale, c'est une histoire qui peut être un peu ennuyante. Le conflit vient toujours chercher un peu de oh, OK, ben, comment tu l'as surmonté? Qu'est-ce que tu en as appris? Ah, puis ça montre une certaine forme de vulnérabilité aussi quand on parle de difficultés, par exemple, qu'on a eues. Bref, storytelling, quelles sont les grandes lignes pour toi? Tu sais, il y a tellement de façons d'aborder le storytelling, hein, de Joseph Campbell à Platon. Qu'est-ce que c'est pour toi le storytelling? Comment tu vois ça?
Oui, ouais, ben tu as tout à fait raison. Hein, le conflit, puis c'est vraiment mal interprété souvent. On va parler de conflit, mais en fait, c'est un événement conflictuel qui vient perturber l'équilibre. OK? Donc, si tu es dans le salon, assis avec ta blonde, tu regardes une série, la série est bonne, puis vous allez vous coucher, ben ça, c'est une anecdote, c'est pas une histoire parce qu'il n'y en a pas eu de conflit. Par contre, si ta blonde est enceinte, puis elle a perdu ses os en plein milieu de la série, OK, il y a un conflit, il y a une situation conflictuelle qui vient amener un déséquilibre. Et donc là, ce déséquilibre-là amène une suite d'actions. OK? Donc, toutes les actions, toutes les histoires doivent débuter avec cette situation conflictuelle-là. S'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'histoire. Parce que c'est juste une continuité, puis c'est juste un équilibre qui perdure. Donc, c'est vraiment important de le comprendre. Et ça, souvent, on va demander à des entrepreneurs, oh, ben, raconte-moi mon histoire. Ah, ben moi, j'ai eu tel succès, j'ai eu tel succès, j'ai eu tel succès, puis tel succès. Mais c'est pas une histoire, ça. C'est juste le happy ending. Il y a
Ouais.
toute l'histoire est skippée. OK, mais pour avoir,
Je
c'est.
vais
Vas-y,
t'interrompre un
vas-y.
30 secondes juste pour apporter mon. J'en ai déjà parlé sur le show, mais en anglais, il y a deux mots, hein, pour le mot histoire. Il y a story, puis il y a history. Puis on pourrait peut-être traduire ça par historique. Quand on demande aux gens de raconter leur histoire, ils vont raconter leur history, chronologiquement quasiment. Puis c'est effectivement, c'est plate pour bien du monde, sauf ceux qui te connaissent déjà peut-être, puis qui veulent en savoir plus. Ah, je t'aime beaucoup, OK, raconte-moi ton historique. Mais le story, c'est quelque chose qui échappe à bien des adultes. Fait que comment, supposons justement qu'on n'en a pas de notion de storytelling ou on les a oubliés parce qu'on les avait sûrement quand on était enfant, comment reconnecter avec elles, comment construire une histoire, David?
Bien, en fait, il faut, je crois, à mon sens, accepter d'affronter nos vulnérabilités. Parce que souvent, l'histoire va passer à travers nos vulnérabilités, surtout quand on parle d'une histoire personnelle. Vous avez eu des difficultés, vous avez passé au travers, bien, il faut affronter nos vulnérabilités pour accepter d'en parler. Et c'est très important parce que l'histoire, là, c'est de vivre par procuration. Donc, ça permet à votre assistance de vivre les difficultés que vous avez eues par procuration, sans les vivre, mais par contre, sans les vivre vraiment, mais par contre, en retirer toute l'émotion et toutes les leçons, tous les apprentissages. Donc, c'est vraiment important, la première étape, d'accepter ça. Puis, c'est vraiment pas évident. J'ai écrit une séquence courriel récemment et j'ai raconté mon histoire. Et bon, ça impliquait de raconter en 2012 l'année la pire de ma vie, où j'étais dans une mauvaise posture, dans une mauvaise situation financière, et il fallait que je me replonge là-dedans. Mais cette année-là a fait la personne que je suis aujourd'hui, m'a fait gagner un gros bagage d'expérience, et ceux à qui je raconte cette histoire-là, ceux qui vont la lire dans ma newsletter, eh bien, ça va leur permettre d'en retirer un apprentissage aussi. Et au-delà de l'apprentissage, de se reconnaître aussi, parce qu'on en vit tous des difficultés. Donc, on crée aussi une connexion émotionnelle quand on va dans ces zones-là. Donc, c'est vraiment très important. Donc, si on parle vraiment, là, je vais laisser le sortir l'ingénieur en moi, de manière plus structurée, bien, c'est sûr que première chose à regarder quand on veut raconter une histoire, c'est de se poser la question, OK, c'est quoi est-ce qu'il y en a une situation conflictuelle? Qu'est-ce qui est arrivé là, qui a fait que du jour au lendemain, les choses venaient de changer? Si ça, ce n'est pas présent, il n'y en aura pas d'histoire. Donc, assurez-vous d'avoir cet élément-là. Puis par la suite,
je vais juste me permettre d'ajouter un élément avant que tu continues. Gardez en tête aussi que le protagoniste de l'histoire, le héros, n'est pas nécessairement vous. Ça peut être toi, le héros de ton histoire. Ça peut être aussi un fournisseur, un collaborateur, un client. Puis à ce moment-là, quel rôle tu joues? Ben, tu pourrais jouer le rôle du... je vais entrer dans le story brand, mais si toi, tu ne joues plus le rôle du héros, tu peux jouer un autre rôle dans ton histoire qui est souvent celui du guide, l'alchimiste, le Obi-Wan Kenobi, le mentor, la personne qui a aidé le héros à surmonter ses obstacles, à régler ses conflits. Bref, juste que les gens aient ça en tête, qu'ils ne sont pas obligés de se mettre toujours comme étant protagonistes de leur histoire parce que des fois, ça va être limité au niveau de « Ah, mon Dieu, je raconte toujours mes histoires à moi », mais non, on peut raconter aussi des histoires de gens que vous avez aidé d'une manière ou d'une autre.
C'est tellement vrai. Puis ça me fait penser aussi que c'est important de réaliser que différentes histoires peuvent servir à atteindre différents objectifs. Donc, je parlais beaucoup de notre histoire personnelle qui va servir justement à créer une connexion émotionnelle avec la personne, de la faire réaliser que ben, finalement, on n'est pas si différent. Donc, de développer une relation d'empathie. Donc, mais par contre, d'autres histoires, comme celle que tu viens de mentionner, qui est basée sur le story brand de Donald Miller, où là, on va se positionner davantage comme un guide, ben, va être une excellente histoire pour amener le client à se reconnaître dans cette histoire-là, à comprendre comment nous, on peut le guider, on peut l'aider, etc., etc. Donc, c'est une structure... c'est pas pour rien que ça a fait un best-seller, là, ce livre-là. C'est une super structure pour faire une vidéo d'introduction sur un site web, par exemple. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose d'autre avant que je rentre dans la structure?
non, vas-y.
On peut dire que c'est ta spécialité et donc tu connais très bien cette structure-là. Donc, si on parle plus de manière structurée, donc on a le conflit, puis ensuite, ben, on veut avoir une suite d'obstacles et une suite de situations, donc de challenges qu'on va relever, puis qui vont amener à d'autres challenges. Donc, quand on bâtit notre histoire, c'est important de ne pas être dans la continuité. Donc, on ne va pas dire, ah ben j'ai fait ça, puis ensuite j'ai fait ça, et ça, et ça, et ça. Non. OK, ça c'est arrivé. Donc, ça, c'est arrivé, mais ça, c'est arrivé. Donc, ce qui arrive, c'est que ça fait comme une espèce de graphique qui nous fait de la misère à l'exprimer, là, mais qui nous fait se promener dans différents types d'émotions. Donc, on a un challenge à relever, on le relève, mais oups, ça, c'est arrivé. Et donc, chaque situation mène à une autre situation, mais jamais dans la continuité. Okay? Donc, c'est toujours une suite de cause à effet. Donc, ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Et surtout sur LinkedIn, mais de manière générale, c'est important d'en tirer des leçons, d'en tirer des apprentissages de tout ça. Et généralement, dans un post LinkedIn, ben, on va faire bénéficier de cet apprentissage-là à notre assistance. Donc, le storytelling va vraiment nous permettre d'enrober toute notre post pour le rendre attrayant, pour le rendre intéressant, pour créer des émotions. Mais ensuite, il faut en arriver à notre contenu, au message qu'on veut transmettre, à l'apprentissage qu'on veut apporter, etc., etc. Hop, je t'entends plus.
C'est vrai, je me mets sur mute quand tu parles, puis j'ai oublié de me démuter. Garde cette pensée, je veux t'entendre sur le message qu'on veut transmettre parce que c'est tellement crucial, c'est tellement un élément essentiel. Mais là, j'ai partagé mon écran sur une formation que j'ai montée d'ailleurs sur la vidéo et le storytelling. Et la raison pour laquelle je partage ce visuel-là, c'est que si vous avez besoin d'aide en termes de comprendre les structures de storytelling, faites juste une recherche rapide sur Google avec voyage du héros, par exemple, ou même structure de récit, ce genre de choses-là. Vous allez trouver beaucoup de visuels qui illustrent assez bien le comment. Puis des fois, avec beaucoup de simplicité, supposons que je prends celui-ci ici. Je ne sais pas si je peux l'agrandir, peut-être en faisant. Oups, non, okay, là, je viens de... Mais la structure du récit, donc. Ce que je pourrais vous envoyer d'ailleurs, si jamais vous me contactez en privé, là, le petit visuel, c'est vraiment intéressant pour se poser les bonnes questions de « OK, j'ai une histoire en tête, maintenant comment je la structure ?» de pouvoir visuellement voir c'est quoi une structure de récit, ça peut définitivement aider. Donc, David, tu t'en allais aborder un point tellement important que peu de gens se posent malheureusement quand ils créent du contenu. Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent? Quel est le message que je veux passer? Alors, ben, est-ce que c'est aussi simple que de se poser la question? Quelle est la réponse, David?
Ben, en fait, ça devrait être le point de départ. Hein? Qu'est-ce qu'on veut communiquer comme message? Donc, quand je parlais là, de que dans un post, c'est toujours le volet contenu et le contenant, ben, il faut commencer par le contenu. Qu'est-ce que je veux passer comme message? Puis aussi, quel est l'objectif de ce contenu-là? Parce que différents contenus vont servir différents objectifs. Et donc, si l'objectif de la publication, c'est de passer un message pour inspirer, bien, c'est sûr qu'il faut d'abord identifier ce message-là, un message qui va être porteur, qui va réellement servir à motiver notre assistance. Puis ensuite, on va travailler le contenant, on va travailler le storytelling ou d'autres types de rédaction pour le mettre de l'avant. Donc, moi, je dirais que oui, absolument, c'est le point de départ. Et sans ça, on risque de tomber dans un piège que plusieurs tombent. Moi, je dis toujours, quand on crée un post, c'est une idée, un post. OK? Donc, et quand on n'a pas pris le temps d'identifier cette idée-là dès le départ, bien, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on commence à écrire le post, on va dans une direction, puis là, on a une autre idée, zoup, là, on s'éparpille, puis à un moment donné, le post va dans toutes les directions. Puis pour un post LinkedIn, 1300 caractères, ça ne fonctionne pas. Là. Il faut vraiment avoir une idée. Il faut être extrêmement concis, extrêmement focus dans notre façon de l'amener. Et voilà, ça commence de l'idée initiale.
Puis un conseil que je t'ai entendu dire, que je trouve tellement judicieux et précieux, tu conseillais de dormir sur un post, donc de l'écrire, de le rédiger, de le réviser le lendemain. Moi, un truc que j'ai appris en faisant de la vidéo, puis je l'applique tellement maintenant aussi quand je fais de la rédaction, c'est je me relis, puis là, je regarde, est-ce qu'il y a de la redondance? Ou est-ce qu'il y a un élément que oui, j'aurais aimé s'en parler, mais oups, OK, ça fait pousser une autre branche à mon arbre, puis là, je trouve qu'elle commence à avoir pas mal de branches, je la coupe celle-là. Il ne faut pas avoir peur d'éliminer des phrases, des idées juste pour rester des fois sur l'essentiel du message, puis pas... finalement, je vais reprendre ce que Donald Miller dit, « If you confuse, you lose », on vise la clarté, parce que plus il y a d'éléments de confusion, plus on risque de perdre l'attention, l'engagement des gens.
J'ajouterais juste un petit point par rapport à ça. C'est vraiment important, et c'est encore plus important sur LinkedIn même dans des médiums courriels où les gens n'ont pas beaucoup de temps, là. Et donc, ils n'ont pas le temps de s'éparpiller en lisant votre histoire avec des détours inutiles. Donc, quand vous écrivez une histoire, là, non seulement il faut dormir dessus, mais il faut aussi se relire et couper tous les éléments. Et quand je dis tout, là, c'est absolument tous les éléments qui ne sont pas absolument essentiels pour passer le message puis bien comprendre l'histoire. Tu sais, c'est des fois, là, je lis des histoires, je lis des posts sur LinkedIn. Puis là, il y a des moments d'égarement. Fouille-moi pourquoi, mais là, la personne a envie de dire que sur la route, elle est allée prendre une crème glacée. C'est pas essentiel à l'histoire. Coupe-moi ça. Parce que pas nécessairement, mais le temps de ton assistance, de personne qui lit ton histoire, est très limité. Il y a énormément de contenu dans le fil d'actualité. Et donc, c'est un geste généreux. Donc, c'est un cadeau à faire à notre assistance d'être très concis puis leur permettre de lire un contenu qui est bien aéré, qui est facile à consommer et qui est très concis.
Toujours vraiment dans sa définition la plus de base, l'empathie. Se mettre à la place des gens qui consomment ton contenu, que je sois en train d'animer partir en affaires, que je sois en train de rédiger du contenu, j'essaie toujours, à un moment donné, de me mettre à la place des gens qui vont... Ça se fait en direct sur Partir en affaires. Fait que des fois, mon cerveau, il roule pas mal. Mais est-ce que c'est pertinent? Est-ce que je continue d'être pertinent? Est-ce que c'est ma curiosité en ce moment que je satisfais ou si mon auditoire va y trouver son compte? Toujours l'empathie, toujours se mettre à la place des gens, vous dire, OK, si quelqu'un qui ne me connaît pas lit cette histoire-là, est-ce qu'il va comprendre? Est-ce que ça va être clair? Il y a deux sujets sur lesquels je veux t'entendre avant qu'on embarque dans les questions des gens, parce qu'il y en a déjà quand même quelques-unes. Tu parlais de faire briller les autres et je trouve aussi que c'est vraiment la clé sur LinkedIn. Les autres peuvent faire partie de ton contenu. Supposons que tu as vécu quelque chose avec quelqu'un ou tu as appris quelque chose de quelqu'un ou une personne t'a inspiré un sujet, faire suite, par exemple, à un sujet que quelqu'un amène, puis là, la semaine d'après, tu as envie de donner ton opinion là-dessus. Bref, toi, David, quels sont tes conseils pour faire briller les autres, pour amener les autres dans le partage, dans le débat, dans le vif du sujet, finalement?
Ouais. Ce que j'aurais à dire là-dessus, c'est qu'il y a l'évidence. Tu sais, souvent, on va penser, ah ben, faire briller les autres, c'est de faire un post puis taguer 22 personnes dans le post. Bon, ça, c'est l'évidence. C'est pas nécessairement, j'appelle ça des appâts à égo.
Mathieu Laferrière aimerait pas s'entendre ça.
Non, mais je l'encourage pas. C'est l'évidence.
Non, je suis d'accord.
Tu sais,
Oui, je suis d'accord.
c'est comme la voie facile. Je ne dis pas que je ne l'ai jamais fait. Je ne dis pas que certains ne le font pas très bien. D'ailleurs, le classement, c'est carrément, c'est un peu ça, même si j'ai poussé vraiment à plus la réflexion. Mais il y a d'autres façons. Il y a d'autres façons de mettre les autres de l'avant. Et l'une des façons, et ça, on l'oublie souvent, eh bien, c'est d'écrire des posts qui vont permettre aux gens de s'engager, permettre aux gens d'ouvrir le débat, de partager leur opinion, de partager leur point de vue. Et donc, ça fait partie aussi de toutes les règles de bienveillance. Je dirais, quand on écrit une publication, souvent, on va être porté à croire que toute la valeur est dans la publication. Mais non, sur LinkedIn, la valeur, elle peut être dans la publication, mais elle peut être aussi dans les commentaires que cette publication-là va générer. Et c'est vraiment important d'en prendre conscience parce que souvent, on va voir des publications, tu sais, on va se casser la tête là, pour faire pratiquement une thèse doctorale, là, puis on finit le post, puis il n'y a plus rien à dire. Bon, OK. Fait que ça, oui, OK, on fait un apport de connaissances, mais le problème de ces publications-là, c'est qu'ils n'auront pas d'engagement, pas de visibilité, et donc notre impact est très limité. Et donc, en quelque sorte, c'est pas si bienveillant que ça. T'sais, on pense d'abord et avant tout à mettre de l'avant notre expertise, mais on oublie complètement d'inclure avec nous autres notre gang, notre communauté, notre tribe, notre tribu. Donc, c'est vraiment important d'y penser quand on écrit une publication. De dire, bon, OK, est-ce que je laisse la place au débat? Est-ce que moi, j'apporte mon point de vue, mais je démontre de l'ouverture à voir le point de vue des autres? Donc, ça peut passer par des posts bienveillants, des posts polarisants aussi. Donc, je le ramène, là, mais le post que j'ai fait hier en exemple, si vous voulez le voir, c'est sur mon profil. Donc, ce que je voulais passer comme message, c'était de dire, ben, ceux qui dominent sur LinkedIn, là, c'est des créateurs de contenu. Ceux qui génèrent le plus d'opportunités, c'est vraiment les gros créateurs de contenu. Et donc, dans ce mindset-là, ben, on a intérêt, nous, à aller de l'avant, puis comment créer du contenu, tu sais. J'aurais pu simplement dire ça, mais pour rendre le post plus polarisant, ben, je l'ai opposé à ceux qui font de la prospection, et particulièrement ceux qui font de la prospection LinkedIn. De masse, là, donc avec des courriels automatisés, des relances et voilà. Et donc, j'ai vraiment opposé les deux clans en disant la prospection est en train de mourir, c'est la création de contenu qui l'emporte, ou je ne me souviens pas exactement. J'arrive pas à lire, là, c'est trop petit. Mais toujours
C'est petit, hein?
ouais, c'est ça. Mais toujours est-il qu'en faisant ça, ben là, j'ouvrais le débat. C'est sûr que tous ceux qui sont pour la création de contenu, allaient venir apporter leur two cents en commentaire, dire leur point de vue par rapport à ça, leur opinion. Et c'est sûr que ceux qui sont pour la prospection de masse, la prospection automatisée, ben eux allaient sentir le besoin de venir contribuer. Et donc, dans ce contexte-là, ça fait une publication qui, oui, apporte un point de vue, apporte mon point de vue dans la publication, mais qui permet de rassembler l'opinion puis le point de vue de plein d'autres mondes qui arrivent avec des perspectives différentes. Bon, dans ce post-là, il y en a qui étaient très tranchés dans leur perspective. C'est souvent le danger d'un post polarisant, mais ça demeure une méthode, ça demeure une façon de faire, tout comme la bienveillance en est une autre. Donc, les deux aspects sont possibles.
Puis je suis content parce que j'avais deux sujets que je voulais aborder pour finir avant qu'on aille dans les questions des gens qui nous écoutent. Puis justement, tu l'as abordé, la diversité d'opinions et de points de vue. Puis c'est intéressant parce que, tu sais, ultimement, le gros bon sens, la règle absolue qu'on devrait appliquer quand on interagit avec les gens, en particulier justement dans les diversités d'opinions et de points de vue, c'est d'y aller sur les réseaux sociaux de la même façon qu'on le ferait en personne. De se garder le même filtre de bienséance, de socialisation qu'on ferait en personne, où on écouterait davantage, on discuterait sur une base qui est peut-être des fois un peu moins insultante. Non pas que j'ai pas été voir les commentaires sur ton post d'hier dans le détail, là. Je sais pas si ça a été dans des... Mais c'est ça, quand c'est polarisant, des fois, les émotions ont tendance à devenir vives. Puis sur les réseaux sociaux, malheureusement, il n'y a pas le filtre trop souvent. Quoique sur LinkedIn, c'est quand même mieux que sur d'autres plateformes. Il reste que garder en tête qu'on parle à d'autres êtres humains, puis tout le monde doit être respecté là-dedans.
Oui, puis ce que j'ajouterais...
Et accueilli.
Puis c'est important. Puis ça, sur le long terme aussi, c'est particulièrement important. Parce que si les gens viennent commenter sur votre publication, et qu'à chaque fois qu'ils le font avec une opinion qui n'est pas la vôtre, vous les rabrouez, vous tentez de les museler, puis vous leur dites que ça n'a pas de bon sens qu'est-ce qu'ils disent, bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont arrêter de commenter sur vos publications. Okay? Vous allez arrêter d'avoir la richesse de leur point de vue. Et donc, c'est important d'être dans un mindset d'accueil, d'accepter que, bon, certaines personnes peuvent ne pas penser comme nous. Et voilà. Et parfois, ben, quand ça tombe dans les attaques, ben là, ça devient un peu difficile à gérer. C'est un peu ce qui s'est produit hier. Mais la personne a finalement supprimé toutes les publications d'attaques. Cela dit, c'est ça. Donc, il faut rester dans l'ouverture puis quand même accueillir les opinions des autres. Mais c'est sûr que là, quand ça tombe dans les attaques, c'est difficile de le faire, là. Genre, on n'est pas des grands sages non plus, là, mais quand même, il faut rester bienveillant.
En tout cas, je t'écoute et j'accueille tout ce que tu dis avec beaucoup d'humilité et une belle écoute, parce que c'est quelque chose qui, moi-même, je vais être très franc, j'ai de la difficulté. Je ne passe pas souvent nécessairement en mode attaque, mais des fois, j'aime ça être dans la confrontation ou dans... Quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, j'y vais sans gants. Je ne suis pas très diplomate des fois dans la vie. J'apprends. C'est quelque chose que je suis conscient de. Puis c'est quelque chose que j'écoute. Puis quand tu me parles de ça, j'aimerais donc ça être comme ça. Mais c'est un work in progress que j'applique et que j'intègre tranquillement dans ma présence en
ligne. Mais il ne faudrait pas penser que je suis un ange pour autant. Hein. J'ai mon caractère aussi. Puis je ne me laisse pas piler sur les pieds. Mais c'est un work in progress, comme tu dis. Puis il faut, à partir du moment qu'on a le mindset, qu'on a une direction, un objectif, ben, on peut s'améliorer.
On va passer aux questions des gens. Je ne sais pas si toi, tu es pressé dans le temps, David, parce que je vois je ne sais pas si tu as une limite de temps.
On prend le temps voulu, oui, il n'y a pas de problème.
Parce que moi, ça me dérange pas de déborder, parce que j'aimerais ça qu'on soit capable d'aborder les questions de tout le monde. Mais bref, on va commencer par celle de Dizel Morin, qui est un de mes entrepreneurs vraiment coup de cœur de cette année. Si vous avez la chance de jaser avec Isaël, je vous le conseille fortement. C'est un gars, je suis tellement content qu'il ait fait le saut dans l'entrepreneuriat récemment. Il y a une âme d'entrepreneur, puis je suis content de le voir prendre son envol. Bref, on dit souvent qu'on doit créer longtemps dans l'ombre avant d'être connu sur LinkedIn. A-t-il expérience, c'est ça? Comment s'est passé sa progression jusqu'à 10 000 followers, 3 ans sans réaction et ensuite, pouf, jusqu'à 10 000, une croissance constante pendant 5 ans. Et aussi, si tu avais à repartir de zéro follower, tu changerais quoi dans ta stratégie pour repartir ta communauté? On a abordé certains de ces sujets-là, mais sa deuxième question, je la trouve particulièrement intéressante. Premièrement, comment ça s'est passé? Puis deuxièmement, qu'est-ce que tu ferais de différent si tu avais à recommencer à zéro? Demain matin.
Moi, quand j'ai commencé, j'étais en mode très exploratoire. Je ne connaissais pas encore beaucoup LinkedIn. C'était une autre époque où on pouvait faire plusieurs demandes de connexion par jour. En fait, 100 par jour. Et au début, quand j'ai commencé, j'ai utilisé des outils d'automatisation qui m'ont permis d'accumuler quelques milliers d'abonnés ou de contacts, de relations à ce moment-là. Mais par contre, j'ai vite découvert que c'était une erreur que j'ai faite parce que la journée où j'ai commencé à créer du contenu, ben, je me suis retrouvé avec un réseau qui était composé principalement de la majorité silencieuse. Et donc, peu importe la qualité de mon contenu que je publiais, ben, il n'y a pas personne qui interagissait, puis il n'y a pas personne qui... et j'avais pas de visibilité qui me permettait d'aller chercher de la visibilité. Et donc, ce n'est pas une bonne façon de faire, définitivement. Si j'avais à recommencer, là, puis premièrement, un élément important, c'est que la visibilité, il n'y a pas un lien direct entre la visibilité puis la grosseur du réseau. Okay? Moi, j'ai vu des personnes qui avaient quelques centaines de relations faire des publications virales de plusieurs centaines de milliers de vues. Okay? Donc, c'est vraiment pas lié avec la grosseur de notre réseau. C'est lié avec la dynamisation. Okay? Donc, plus on a de gens dans notre réseau qui sont actifs sur LinkedIn, qui font des commentaires, qui font des réactions, plus ça va contribuer à nous donner de la visibilité. Donc, si j'avais à le refaire, je prendrais un peu une approche que Manuel Constant a fait. Lui, quand il a commencé, pendant, je crois, 6 mois, il n'a pas créé de contenu, il ne faisait que commenter. Okay? Puis il connectait avec des gens qui sont actifs sur la plateforme. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est bâti un réseau qui n'était pas nécessairement un très gros réseau, mais qui était constitué de gens très engagés. Donc, lui, là, sa majorité silencieuse, plutôt que de représenter 90 % de son réseau, ben, il représentait probablement un maigre 10 %. Et donc, quand il a commencé à publier, après un moment, à aller chercher du capital relationnel, excusez-moi, ben, éventuellement, il a presque instantanément eu de l'engagement puis de la visibilité. Tu sais, il me dit, dès le départ...
Et un engagement fort.
Oui, c'est ça. Puis il me disait, moi, dès le départ, j'avais 30, 40 réactions, chose qu'on voit très rarement. Mais pourquoi ça s'est produit? Parce qu'il a su d'abord bâtir un réseau avec des gens engagés et aller chercher d'abord un capital relationnel avant de commencer à publier. Donc, les gens le connaissaient déjà. Les créateurs de contenu appréciaient, qui commentaient sur ses publications. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé quand lui a publié? Bien, les créateurs sont venus interagir sur son contenu. Et comme ils ont tous des gros réseaux, bien, ça a fait boule de neige. Puis, il y avait beaucoup d'interactions puis de visibilité. Tu aurais aimé que je continue à parler deux minutes, là.
Je suis en train de faire la régie en arrière, puis là, j'étais sur mute, mais là, je ne peux pas revenir sur la fenêtre. Bref, je vais montrer, en fait, je vais pas le montrer, parce que là, j'ai essayé de le trouver, puis évidemment, j'ai pas été assez rapide, mais Mathieu Laferrière a parlé de ce sujet-là sur mon podcast. Il y a de cela, en avril dernier, en fait, lui, il appelle ça le capital réactionnel.
Oui, bien, c'est ça, c'est toujours la même chose. Des fois, je dis réactionnel, mais c'est juste que la dernière fois que j'ai dit réactionnel sur Clubhouse, ils ont entendu rédactionnel, et donc là, j'essaie de dire relationnel depuis.
Oui, bien, écoute, dans tous les cas, on parle du principe de, puis c'est donc, puis les gens qui veulent aller plus dans le détail, c'est pour ça que je partage l'épisode 21 qu'on voit à l'écran en ce moment avec Mathieu Laferrière. Et l'importance de juste, on ne sait pas par où commencer sur LinkedIn, bien, comme tu l'as dit, comme Manuel a fait, c'est vraiment une bonne idée de commencer à interagir. Puis vous pouvez déjà utiliser des notions de storytelling quand vous interagissez avec les publications des gens, parce que si vous faites juste écrire « Ah, très intéressant, merci, ça va avoir un impact, mais c'est quand même limité. » Les gens, s'ils voient votre nom, va revenir régulièrement. Un conseil que Mathieu donnait par rapport à ça, puis on passe à un autre sujet après, il disait « Si vous voyez que vous êtes dans les premiers, genre même voir le premier à pouvoir interagir ou laisser un commentaire sur une publication, faites-le, ça va vraiment… » enrichir la relation avec la personne. Les gens vont le remarquer, évidemment, surtout si c'est un post. Des fois, on n'est pas tout seul à publier, puis là, une heure, deux heures passent, puis il n'y a à peu près personne qui interagit. Si vous êtes dans les premiers, ça va vraiment faire une belle...
Par rapport à ça, c'est intéressant aussi de le faire sur des... on peut même suivre, on peut même bookmarker, mettre en favori le fil d'actualité de gens qui ont des créateurs de contenu qui ont beaucoup d'engagement, on identifie leur heure de publication, Puis à 7h15 le matin, par exemple, bien, on se connecte, puis on s'assure d'être le premier à faire un commentaire qui va être complémentaire et constructif par rapport à sa publication. Et donc, ce qui risque d'arriver, c'est que non seulement le créateur de contenu va nous remarquer, mais en plus, comme on est le premier et qu'on a apporté un commentaire pertinent, puis que cette personne-là a beaucoup d'engagement, bien, il y a plein de monde qui va voir notre commentaire, qui risque de faire des réactions. Et dans le classement par pertinence, on se retrouve en haut. Et donc, juste ça, ça peut contribuer à nous faire accumuler des abonnés, à nous faire connaître de nouvelles personnes, puis éventuellement à accumuler du capital relationnel.
Écoute, David, ce conseil-là m'a donné des frissons tellement je le trouve diablement judicieux. C'est vraiment un beau conseil, effectivement. Si on est cassé. Non seulement je ne savais pas qu'on pouvait s'abonner aussi, bien, ça fait bien du sens. Puis effectivement, de pouvoir voir que les gens publient le mardi, par exemple, à 7h15, puis de se dire « Ah, OK, ouais, j'aime ça, je trouve ça… » écoute, il y a eu une discussion sur dans les gens qui… entre les gens qui nous écoutent, puis je vais l'afficher. Il y a trois personnes qui ont participé, puis je trouve ça le fun de voir les gens qui se répondent entre eux. Guy Bernadet a parti la discussion en posant une question qui t'est destinée ultimement. Est-ce que l'histoire d'un personnage imaginaire pourrait fonctionner sur LinkedIn ou il vaut mieux réserver ça à Hollywood? Puis juste avant d'entendre là-dessus, David, je vais montrer les commentaires qu'il y a eu par rapport à cette question-là. François Latulippe qui a répondu « Oui, ça peut très bien fonctionner. Luc Lapointe en a déjà fait de façon très audacieuse et c'était très divertissant et pertinent. » Et Luc a justement renchéri. Merci François en me taguant. Tu m'as notifié que je devais assister à ce live très pertinent pour mes activités et merci pour les bons mots. Donc, maintenant, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, David, sur l'idée d'utiliser des personnages imaginaires pour raconter ces histoires.
Ben, en fait, moi, je pense que ça se fait très bien. Je suis parfaitement d'accord avec François. L'exemple qui me vient en tête, c'est celui de Christopher Piton. Quand il a commencé en 2019, je crois, il y avait deux thématiques. Il y avait le débat du mardi, puis il y avait l'histoire de SMEC. Et donc, il faisait un débat le mardi, puis une autre journée, il faisait l'histoire de SMEC. Puis ce mec, ben, il réutilisait constamment pour raconter une histoire avec une thématique intéressante, avec une leçon intéressante qui suscitait la discussion, etc. Et ça lui a permis de mémoire de passer de 10 à 30 000 abonnés en un an, je crois, cette ligne éditoriale-là. D'ailleurs, on en a très peu parlé hein, de la ligne éditoriale, mais ça demeure qu'en création de contenu, c'est très important. Puis je vous dirais, juste parce que je ne veux pas m'éterniser, mais un élément qui est vraiment très important, c'est d'avoir des thématiques et de s'en tenir à ces thématiques-là. Pourquoi? Parce que si on parle constamment de ces thématiques-là, qu'est-ce qui va arriver? Ceux qui ont de l'intérêt pour les thématiques vont se mettre à nous suivre, donc on va nourrir cet intérêt-là. Et donc, plutôt que de gagner des abonnés puis d'en perdre à la même vitesse, bien, on va être en mesure de bâtir sur ces abonnés-là qui vont maintenir leur intérêt puis toujours d'en gagner de nouveaux. Donc, c'est très important de vraiment focaliser notre création de contenu autour de thématiques données.
Puis, créer des rendez-vous, bien, nécessairement, ça paye. Partir en affaires est un rendez-vous tous les jeudis à midi. D'avoir justement une ligne éditoriale en se disant, OK, ben les mardis matin, je publie tel type de contenu, le jeudi après-midi, ça crée des rendez-vous. Les gens, ça connecte bien avec le point dont tu parlais juste précédemment. Si les gens savent qu'à chaque mardi à midi, tu publies tel truc, ben ils vont être présents s'ils veulent être dans les premiers à interagir puis à être remarqué par la personne qui crée le contenu. Une autre question de François Latulippe. Quelle est l'erreur, selon David Gaudreau, qu'on voit le plus fréquemment dans des publications?
J'ai tendance à dire que c'est en lien avec ce que j'ai dit tantôt, c'est les publications qui n'ont pas seulement une idée, donc qui vont un peu dans toutes les directions. Ça, c'est la première erreur qui me vient en tête. Puis la deuxième, c'est vraiment, puis c'est une erreur coûteuse, c'est vraiment de ne pas avoir une ligne directrice dans notre création. Tu sais, c'est vraiment de se lever un matin puis de parler d'un sujet, mettons la transformation numérique, puis de se lever l'autre matin puis de raconter votre expérience au McDo ou de parler d'un... Ça fait que les personnes qui ont décidé de vous suivre sur le sujet de la transformation numérique qui ont un intérêt pour ça, bien, quand ils vont se rendre compte que vous parlez d'à peu près de tout à part de transformation numérique, ben, ils arrêtent de nous suivre. Donc, c'est très difficile de bâtir une audience quand on n'a pas un focus dans notre création.
Et c'est facile de se décourager aussi.
Aussi.
C'est vraiment quelque chose qui est sous-estimé quand on n'a pas de stratégie ou de vision, moyen terme, long terme, court terme, etc. C'est facile de faire comme « Ah, qu'est-ce que je pourrais faire comme contenu? » Ben, à un moment donné, OK, là, je suis tanné, je ne sais plus où je m'en vais. Avoir une certaine vision, ça aide à garder le focus et à rester stimulé et encouragé à créer du contenu. Je vais afficher une autre question. Celle-ci de Cathy Brocard qui demande la régularité ou produire moins, mais plus. Qu'est-ce qui est le plus important? Pardon, je reprends du début. Qu'est-ce qui est le plus important? La régularité ou produire moins, mais de façon plus ciblée? Qu'est-ce qui fait que l'algorithme va embarquer?
En fait, on donne beaucoup de mérite à l'algorithme. Mais en réalité, là, l'algorithme, il fonctionne principalement avec l'engagement. Donc, si votre publication a de l'engagement, ben, elle va se diffuser dans tous les réseaux de ceux qui se sont engagés sur votre publication, puis vous allez avoir de la visibilité. Et ça, que ce soit une publication que vous faites de manière spontanée ou que vous ayez une régularité. La régularité, par contre, ce n'est pas en lien avec l'algorithme. Ce n'est pas pour ça que c'est important. C'est parce que la régularité va faire que, en fait, il va vous apporter plusieurs bénéfices. Le premier, un peu comme Mathieu le dit, vous allez créer un rendez-vous. Les gens vont s'attendre à vos contenus. Ils vont développer l'habitude de vous suivre, de venir commenter sur vos contenus. Donc, ça va vous permettre de développer une relation. Donc, une relation de confiance avec ces gens-là, une relation de proximité aussi, ça, c'est très important. D'ailleurs, ça, c'est un des éléments qui influence l'algorithme, la proximité, en plus de l'engagement. Donc ça, c'est une chose. La régularité va vous permettre quelque chose d'autre aussi. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Ça va vous permettre de vous améliorer. Ça va vous permettre, à force de créer du contenu, de voir qu'est-ce qui fonctionne. Et par itération, bien, de toujours faire du meilleur contenu et de vous diriger vers ce qui fonctionne le mieux pour vous. OK? Donc, ça va vous permettre de devenir un meilleur créateur, de trouver votre voix, de trouver votre couleur, votre signature. Donc, je dirais que la régularité est... C'est tous les piliers du succès sur LinkedIn, là, tout ça repose sur la régularité, la constance et la persévérance. OK? Donc, les piliers sont importants, mais si vous parvenez pas à créer du contenu avec régularité, tout va s'effondrer en termes de création de contenu. C'est vraiment le nerf de la guerre de réussir à développer l'habitude. OK? Donc, dans ma formation gratuite, le dernier, je l'appelle le secret, je ne me souviens pas, mais le dernier email, là, ben, je parle d'habitude. Je fais référence au livre de James Clear, Atomic Habits. Qui montre comment développer une habitude, parce que c'est tellement important. C'est vraiment de réussir à le mettre au calendrier, de commenter sur une base régulière, de mettre au calendrier, de faire une ou deux ou trois publications par semaine, un rythme que vous allez être capable de soutenir. C'est vraiment, vraiment très important.
OK, je n'étais pas sur mute. J'étais en train d'aller chercher une référence que je veux montrer à l'écran parce qu'on a une autre question qui va un peu dans le même sens de ce qu'on vient de parler. Là, on ne voit pas le nom de la personne parce que je ne suis pas connecté avec elle. Je vais aller le chercher ici. Katia Merkish, j'espère que je prononce bien ton nom de famille, Katia, qui dit « Par manque de temps, d'idées ou toute autre raison, on peut sauter la production de son contenu. Que pensez-vous de l'importance de mettre en place un plan de production de contenu? » Je pense qu'on a déjà répondu à cette question-là. Par contre, j'aimerais profiter de ça pour dire, ben, quand on manque d'idées, il y a une couple de trucs qu'on peut utiliser. Je les partage très rapidement. Entre autres, faire ressortir toutes les questions que vos clients se posent. Si jamais vous avez déjà commencé à bâtir une FAQ, là, une foire aux questions sur votre site web ou même pour vous-même à l'interne, tout ça, c'est des perles pour créer du contenu. Si vos clients se posent ces questions-là, vos clients potentiels se posent également ces questions-là, donc d'un point de vue aussi de référencement naturel de SEO, ça vaut vraiment la peine de créer du contenu sur des questions qui reviennent. Un autre truc qui peut être intéressant pour générer des idées de création de contenu, puis je vais partager un outil que j'aime bien qui est méconnu. Il est méconnu, mais vous connaissez peut-être les alertes Google. Il y a une alternative aux alertes Google qui s'appelle les alertes Talkwalker, qui, moi, je préfère Talkwalker à Google. Je trouve que les liens, les références qui envoient sont plus pertinentes, souvent plus diversifiées. C'est quoi une alerte Talkwalker? C'est vous créer des alertes avec des mots-clés spécifiques à votre industrie. Même, je vous dirais, créer un mot-clé avec votre nom ou le nom de votre entreprise. Puis si jamais ces mots-clés-là sortent dans des articles, dans des billets de blog, à peu près n'importe où sur le web, vous allez recevoir des courriels qui disent « Ah, ben voici, votre mot-clé est apparu cette semaine. » Vous pouvez, par exemple, configurer ça pour recevoir un courriel par semaine, puis ce courriel-là va inclure tous les résultats. Donc, ça, c'est un bel outil de stratégie de contenu qu'on peut ajouter à son arsenal. David, il y a une question de Nadine. Je suis content que Nadine participe. Elle a toujours des questions extrêmement pertinentes. Est-ce une bonne stratégie de diversifier le contenu? Exemple, une publication un peu personnelle avec un clin d'œil professionnel, une publication purement informative qui dénote une expertise et une publication de connexion de social. Qu'est-ce que tu en penses, David?
Je pense en fait que c'est propre de toute bonne stratégie que de diversifier ses contenus. Souvent, je vais parler de haut, de milieu, puis de bas de funnel. C'est super important, particulièrement pour un entrepreneur, pour être en mesure de générer des opportunités, que de ne pas avoir seulement, par exemple, des contenus de haut de funnel qui visent ou qui servent seulement les objectifs de générer de la visibilité. C'est important d'en avoir parce que c'est ce qui va nous permettre de faire croître notre communauté. Mais ça prend des contenus de milieu de funnel. Les contenus de milieu de funnel, c'est quoi? C'est justement des contenus qui vont mettre notre marque personnelle de l'avant, nos valeurs, nos convictions, nos motivations, qui vont nous permettre d'établir notre crédibilité, notre notoriété. Et donc ça, c'est des contenus qui vont faire moins de visibilité, mais qui sont essentiels pour créer une connexion émotionnelle avec notre auditoire, pour se faire connaître. Et puis ensuite, il y a les contenus de bot funnel aussi qui sont très importants, où là, on va aller plus en profondeur dans la démonstration de notre expertise. Ou même, on va se permettre de faire certaines offres à l'occasion. Et je le mets entre parenthèses. Je vais en reparler tout de suite, là, dans quelques secondes. Mais au niveau de la démonstration d'expertise, c'est là où on va aller plus en profondeur. Donc ça va passer par des formats aussi qui sont un peu moins populaires, comme les articles, comme des guides, des masterclass. Donc tous des formats qui vont nous permettre vraiment de faire la démonstration de notre expertise et qui vont permettre à un client potentiel qui va nous avoir découvert d'abord avec le contenu de haut funnel, qui va avoir créé une connexion émotionnelle avec nous, avec du milieu de funnel, de soudainement prendre conscience de notre expertise et de gagner en confiance puis de se dire oh, j'aurais envie de travailler avec cette personne-là. Par rapport aux offres, je peux peut-être vous communiquer un principe vraiment important. Et ça, c'est vrai pour la prospection relationnelle, donc ce qui passe par la messagerie. C'est vrai aussi pour la création de contenu. C'est un principe de Justin Welch qui est de recharger. On doit charger la batterie, okay, avant de pouvoir faire une offre. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va faire une publication où on va apporter de la valeur à notre communauté, on charge un petit peu la batterie. Okay? Donc, il faut apporter au moins 80 à 90 en apport de valeur avant de se permettre de faire une offre. Une offre qui n'est pas nécessairement un pitch de vente, mais qui pourrait être, par exemple, une invitation comme à mon Connect and Learn, une invitation à télécharger une gratuité, etc., etc. Mais une fois qu'on le fait, qu'est-ce qui arrive avec la batterie? Elle se décharge. Et donc, il ne faut pas faire l'erreur de faire une suite d'offres l'une après l'autre, comme par exemple dans un lancement, tu sais, on peut faire cette erreur-là. Donc, quand la batterie s'est déchargée, on recommence, on fait de la part de valeur et on peut se permettre, une fois qu'elle est bien chargée, dans un ratio de 80 à 90 de refaire une offre.
Ah, c'est tellement précieux ce que tu viens de dire. J'avais assisté à 2 jours de conférence, puis moi, j'étais sorti de là en appelant ça le grand événement de l'infopub, parce qu'il y avait plus de ratio sollicitation qu'il y avait de ratio valeur. J'étais vraiment sorti de là aigri en me disant, voyons donc, j'ai assisté à 2 jours de embarquer avec nous dans notre patente à gosse, puis on va triper ensemble, puis le contenu réellement utile et qui avait de la valeur. À peu près pas. On va terminer avec, puis on va légèrement sortir du sujet, mais terminer avec les questions d'Andréane Coach qui sont en référence au guide que tu as monté, David. Donc, Andréane qui dit le grand Manitou dénomination, qui est toi-même. donc, elle a 5 questions. Combien de temps pour compiler les lectures et suggestions pour établir ton palmarès des 150 meilleurs créateurs de contenu sur LinkedIn? Penses-tu en faire annuellement? Avais-tu des critères rigides? Connaissais-tu toutes les personnes qui font partie de la liste finalement? Et as-tu des désaccords avec certaines suggestions? J'aime ça. C'est des 5 très belles questions. Alors, oui. Je te laisse répondre dans l'ordre que tu désires.
Ben, je vais y aller en rafale. Combien de temps? Le temps, j'ai... Je l'ai estimé, mais je l'ai fait sur une période de 2 mois. Et je l'estime en haut de 60 heures, plus réalistement, au moins probablement 90 heures que j'ai passées dans tout le processus. Mais j'ai quand même peur que ça ait pris plus que ça. Mais je l'ai pas, tu sais, je l'estime, là, mais ça a pris énormément de temps, bien plus que ce que je me serais imaginé. La deuxième, penses-tu le faire annuellement? Initialement, ce n'était pas mon intention, mais de la minute où je l'ai publié, tout le monde a commencé à me parler du prochain, l'année prochaine, qui voulait en faire partie, qui voulait être sur mon radar, hein, parce que contrairement à ce que certains peuvent penser, je n'ai pas une vue 360 degrés sur tous les créateurs de contenu de la francophonie. Donc, certaines personnes sont maintenant sur mon radar parce qu'on a interagi ensemble sur les publications, etc. Avais-tu des critères rigides? J'en avais pour le top 100, c'est-à-dire que j'ai fait un... Et ça, c'était une difficulté parce qu'au début, j'avais des centaines et des centaines de créateurs et là, je devais trouver une façon de les mettre dans le bon ordre, tu sais. Et une façon qui était calculable dans une fiche Excel. Et donc, je ne pouvais pas, par exemple, évaluer la pertinence en lisant 10 contenus de chacun de ces. C'est impossible. Donc, ce que j'ai fait, j'ai vraiment considéré la taille du réseau. Donc, j'ai attribué une note par rapport à ça. Puis ensuite, j'ai regardé des publications pour chacun. Puis en fonction de l'engagement, le nombre de réactions, le nombre de commentaires qu'il y avait, j'ai attribué une note sur une note d'engagement. Puis ensuite, j'ai réalisé, j'avais mis les 2 sur 10. Puis j'ai réalisé que la part du réseau était trop importante. Donc, j'ai doublé la part de l'engagement. Et là, ça me donnait un classement qui était beaucoup plus équilibré par rapport à l'engagement versus la taille du réseau. Et donc ça, c'était les critères qui étaient vraiment plus rigides. Je me suis assuré d'avoir une diversité. Tu sais, je ne voulais pas que ça soit juste des gens qui parlent de com, de RH, puis de gestion, parce que c'est des sujets très porteurs sur LinkedIn. Donc, je me suis assuré dans ma sélection, d'avoir une diversité de sujets, des gens qui parlaient d'environnement, comme je l'ai dit tantôt, de prévention en santé, etc., etc. Une fois que j'ai terminé ça, j'ai réalisé qu'il y avait plein de gens qui étaient extrêmement pertinents, qui n'étaient pas dans le top 100, malheureusement. Et donc là, c'est là que je suis venu avec l'idée des coups de cœur de la rédacte. Et ça, c'était plus des coups de cœur. J'ai quand même regardé l'engagement, j'ai quand même regardé la taille du réseau, mais c'était beaucoup plus flexible là, par rapport à ça. Connaissais-tu toutes les personnes qu'on te suggérait? Absolument pas. J'en ai découvert beaucoup. Et une fois que tout le classement était terminé, j'ai découvert un classement qui s'appelle le Top Choice 2020 Africa. Et j'ai découvert plein de créateurs africains. Et là, je me suis retrouvé avec un classement qui était terminé, prêt à publier, et plein de bons créateurs africains. J'ai réalisé que j'avais pas une bonne représentation dans cette région-là du monde. Et donc, j'ai pris le temps de remanier une part du classement. Bon, j'ai pas pu en intégrer autant que j'aurais voulu, mais j'ai quand même fait de la place pour eux. Et donc voilà. As-tu des désaccords avec certaines suggestions? C'est pas vraiment un désaccord, mais c'est un critère que j'aurais voulu pouvoir prendre en compte, mais que j'ai pas pu. C'est ceux qui utilisent des pods les pods automatisés. Les pods humains, je n'ai pas trop de problèmes avec ça. Des groupes d'entraide qui se donnent un coup de main, c'est bien correct. Mais ceux qui utilisent des pods automatisés puis qui achètent ça à coût de 100 likes, j'aurais aimé avoir une façon rapide de les identifier, puis probablement que je les aurais retirés du classement. Mais tu sais, quand on analyse jusqu'à peut-être 500 créateurs de contenu, il n'y avait pas une façon facile pour moi de l'identifier sans passer comme 10 minutes par profil puis essayer de faire des comparaisons, et j'aurais jamais pu le savoir avec certitude de toute façon. Voilà.
Donc là, tu parles de pod. Peux-tu juste expliquer c'est quoi exactement? Moi, ça me dit rien.
Ça ne te dit rien, Mathieu, les pods?
Non.
En fait, un pod, c'est un groupe d'entraide. Okay? Initialement, ça a parti comme ça. Donc, c'est des gens qui se mettent ensemble, soit dans un groupe WhatsApp, Slack, et qui vont s'échanger leurs publications pour aller faire des réactions, aller faire des commentaires. Et dans le fond, ils s'entraident un peu pour propulser leur visibilité. Lorsque c'est fait à une échelle humaine, ça va. Mais il y a des outils comme Podawa, je crois le nom, qui permettent de le faire de façon automatisée. Et donc, on s'enregistre dans Podawa, on se crée un compte, et puis on peut dire, ben moi, sur ma publication, là, je veux avoir 200 réactions. Okay? Et donc là, ben Podawa va prendre tous ceux, les utilisateurs qui ont donné un accès à leur compte, et ils vont aller faire des réactions. Okay? Donc ça, c'est vraiment, vraiment très artificiel. C'est vraiment de booster sa visibilité artificiellement et à gros volume. Donc moi, je suis vraiment pas pour ça. Puis en plus, le problème, c'est que c'est possible, avec certains de ces outils-là, de publier des commentaires fake. Donc quand on voit des publications là, que ça dit « good job, intéressant » puis que ce n'est que ça, là, ben généralement, ça provient de pod. Et puis, ce qui, moi, me fait halluciner de ça, c'est qu'à partir du moment qu'on donne un accès à notre compte, ben on peut se retrouver nous-mêmes à faire des commentaires sur des publications qu'on n'endosse pas du tout. Okay? Donc, une personne pourrait faire une publication qui est misogyne, et puis l'outil va prendre votre propre nom et va faire un commentaire en disant « intéressant ». Tu sais. Donc, c'est assez discutable comme approche, mais c'est très populaire. Puis malheureusement, ben, c'est ça. Il y en a qui s'achètent des milliers de likes avec ça.
Depuis que le premier réseau social est né, c'est quelque chose que les réseaux sociaux essaient d'éliminer le plus possible. Il y a eu des périodes où c'était beaucoup plus facile d'acheter des likes sur Facebook, par exemple, que ça peut l'être aujourd'hui, mais c'est quand même un fléau. Qui malheureusement est difficile à enrayer complètement. Merci David, il y a tellement de choses que moi-même j'ai appris, je suppose que les gens qui nous écoutent également ont appris. Alors, pour les gens qui veulent se connecter avec toi, si ce n'est pas déjà fait, évidemment, il y a ton LinkedIn. Je suggère fortement aux gens d'envoyer une demande de connexion personnalisée quand vous allez vous connecter avec David. C'est toujours préférable. Et également, il y a ton site web, davidgaudreau.com. Qu'est-ce qu'on retrouve, David, sur ton site web?
Ce qu'on retrouve, le plus intéressant, c'est quand on va dans le footer en bas complètement, il y a un lien vers le blog. Okay? Un blog que j'ai commencé à populer depuis mon retour au mois de mai. Donc, il n'y a pas encore énormément d'articles, mais c'est des articles très en profondeur que vous pouvez lire et apprendre énormément sur LinkedIn. Évidemment, bon, j'offre des services de formation et d'accompagnement en positionnement et en positionnement vraiment au niveau de la définition et comment se positionner sur LinkedIn pour générer les meilleures opportunités. Donc, si c'est des services qui peuvent vous intéresser, je vous invite à me contacter ou sinon à downloader, à télécharger mes gratuités. J'y mets beaucoup de cœur et vous allez en retirer, je le souhaite, beaucoup de valeur. J'ai quelques lives aussi. Je vais rajouter le nôtre, Mathieu, sur mon site bientôt. Quand j'ai fait Caféine, mon entrevue avec Christopher, avec Emmanuel, Dave Cameron. Donc, certains lives très intéressants à revisionner.
Et Pour parler un peu de la générosité de ton contenu, j'ai téléchargé tantôt ton document profil LinkedIn qui vend. Et t'as pas fait un feuillet, un pamphlet de 6 pages qui fait comme OK, voici les grandes lignes. Non, non. T'as fait un document qu'on peut télécharger gratuitement, encore une fois, je le répète, sur ton site web, qui est aussi, moi, je l'ai vu à partir de la section. Portfolio, ça s'appelle pas comme ça, sélection. Notre sélection, merci, sur ton profil LinkedIn. Et là, on voit la table des matières, là, c'est extrêmement exhaustif. Là, on parle d'un document de 156 pages qui, j'ai pas eu le temps la chance de le lire encore, évidemment, mais qui, à mon avis, doit être assez complet, merci.
Moi, j'ai fait beaucoup d'optimisation de profil pour des clients, dirigeants, entrepreneurs, même des travailleurs, des consultants majoritairement. Et j'ai développé à travers les années une expertise en optimisation de profil, toujours avec l'objectif de vendre ou en tout cas de générer des opportunités. Et j'en ai fait une synthèse, puis c'est dans ce guide-là. Voilà, c'est très riche, riche d'informations. Évidemment, je sais que Michel, son nom de famille m'échappe, l'avait lu et m'avait fait une rétroaction intéressante et m'avait dit « On a l'impression que tu es avec nous, à côté de nous, puis que tu nous guides pas à pas à chacune des sections. » J'avais trouvé ça vraiment, vraiment flatteur. Puis, tu sais, c'était vraiment mon objectif quand je l'ai créé.
Tes documents, autant que tes Connect and Learn, sont toujours extrêmement généreux de contenu. Après le dernier Connect and Learn, tu as créé un petit document avec les grandes lignes. C'était vraiment, c'est tellement précieux. Il y a beaucoup de gens qui font de la stratégie de contenu pour accrocher une adresse courriel. Puis une fois qu'ils l'ont, ils vont donner du contenu, ils vont te donner des petits bonbons, ils vont te pitcher un biscuit une fois de temps en temps, mais tu as l'impression que tu as toujours faim. Avec toi, notre faim est rassasiée. Donc, je trouve que tu es extrêmement généreux en termes de contenu. Puis tout ce que je dirais là-dessus, c'est ne t'épuise pas à continuer parce que je t'écoutais tantôt de ton 90 heures et tout ça. On veut te garder avec nous, David. Donc, prends soin de toi aussi là-dedans. Tu peux, des fois, être pas moins généreux, mais moins exhaustif dans ce que tu couvres. Puis on va l'apprécier quand même, je pense. En tout cas, du moins, c'est mon optique que je t'envoie. Cela étant dit, tout le contenu que tu as créé, évidemment, reste là et reste encore très pertinent. Pour ce qui est de mon moi-même, si jamais vous avez envie d'aller zioter, c'est quoi une vidéo d'accueil? Bien, vous pouvez aller le faire sur mathieuchevalier.com. On parlait un peu de Donald Miller tantôt. Les techniques de StoryBrand, effectivement, je les applique essentiellement dans ma façon de travailler pour qu'on vous présente auprès des visiteurs de votre site web, auprès de clients potentiels, comme étant un guide qui va les accompagner à surmonter leurs obstacles et à atteindre des résultats que vous voulez bien les aider à atteindre. Tout ça d'une façon empathique. Pour moi, c'est bien important que, dans ce cas-ci, par exemple, qu'une vidéo, dès les premières secondes, réponde à qui ça s'adresse et pourquoi. Donc, on peut faire ça ensemble. Aussi, j'en ai parlé à quelques reprises récemment, mais avec un partenariat avec l'École des entrepreneurs du Québec, toute entreprise située sur l'île de Montréal qui comporte au minimum 2 personnes dans l'entreprise, de 2 à 20 employés ou associés ou quoi que ce soit, vous pouvez bénéficier de 10 heures de coaching gratuite, soit avec moi ou avec d'autres formateurs de l'École des entrepreneurs. Ça peut être un mix des deux. Vous pouvez prendre un 5 heures avec moi, un 5 heures avec un autre coach, par exemple. Contactez-moi pour avoir plus d'infos. Il faut que vous soyez situé sur l'île de Montréal, 2 à 20 employés. Puis avec moi, les formations que j'ai montées, bien, il y en a une sur LinkedIn, puis il y en a une également sur le storytelling et le pouvoir de la vidéo pour vous aider à propulser votre entreprise. David, merci. J'espère que ce ne sera pas le dernier épisode de Partir en affaires qu'on va faire ensemble parce qu'il y a tellement de beaux sujets qu'on pourrait aborder. Je te laisse le mot de la fin, David. S'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore abordé qui serait pertinent d'ajouter.
Ben, en fait, ce que j'aurais à dire, c'est d'abord, je veux rappeler qu'on va être ensemble, encore une fois, avec plaisir pour un Partir en affaires de nouveau. Mais on va être ensemble aussi le 2 novembre au Connect and Learn. Ça va être vraiment très intéressant. Si vous voulez être avisé des événements, donc pour le 2, avoir tous les détails, Je vous encourage à souscrire à ma newsletter. C'est vraiment la façon la plus facile d'être tenu au courant de tout ce qui se passe. Je trouve vraiment ça le fun parce que là, on est en train de bâtir une belle communauté de beaux entrepreneurs avec une superbe dynamique. Donc, c'est vraiment le fun. Et comme Mathieu l'a dit, bien, j'essaie autant que possible de donner de la valeur généreusement. Je vous dirais, sur le mot de la fin, bien, j'ai envie de peut-être vous laisser sur un petit boost de motivation. La création de contenu, c'est vraiment une excellente façon de se positionner. Donc, ça nous permet d'être présent d'abord sur la plateforme, tranquillement de se faire connaître, puis avec le temps de rentrer ce que j'appelle dans la zone payante, là, de se faire reconnaître, comme une référence de notre industrie, de notre secteur, éventuellement de bâtir un lien de confiance avec nos clients idéaux et là, de générer des opportunités d'affaires. Donc, c'est vraiment très payant humainement et même d'un point de vue affaires là, que de faire de la création de contenu. C'est une game à long terme, mais ça vaut vraiment le coup de s'y investir. Voilà.
Ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que c'est une très belle façon de mettre le relationnel avant le transactionnel. Merci beaucoup, David. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. C'est jusqu'à maintenant définitivement l'épisode le plus long de Partir en affaires, mais pour moi, j'ai eu l'impression qu'il a duré 5 minutes. En tout cas, merci, David, de ta générosité. Au plaisir de se croiser bientôt.
Avec plaisir, Mathieu. C'est vraiment chouette de passer du temps avec toi.
Merci. À la voyure!
OK, bye-bye.